Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Excessif.
Le prof Patrick.
Et tout de suite, on retrouve le prof Patrick pour une nouvelle chronique. Bonjour prof Patrick.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui?
Est-ce que tu te souviens, il y a un an, presque jour pour jour, c'était le 5 mai 2022, on a fait une chronique sur Elon Musk et son intention de racheter Twitter.
Oui, je me souviens qu'on en avait parlé.
On avait évoqué sa motivation annoncée et on avait creusé ce qui se cachait derrière. Sa motivation annoncée, c'était « je veux rétablir la liberté d'expression ». Mais oui mon gars, on avait vu que c'était vraiment flou. Derrière ça, sa position semblait pas très réfléchie en apparence.
Ouais.
Ça, c'était il y a un an, on va exercer une sorte de droit de suite et on va dire un an après et 6 mois après le rachat effectif de Twitter par Elon Musk, fin octobre 2022, on va se demander qu'est-ce qu'il en a fait de Twitter, après 6 mois d'activité.
D'accord.
Pour ça, je vais utiliser beaucoup le travail d'un économiste, d'un jeune économiste qui s'appelle Olivier Simard Casanova et qui a un blog très intéressant qui s'appelle L'économiste sceptique. Voilà. Et il a fait 2 chroniques sur le rachat de Twitter et à ce jour, où est-ce qu'on en est? Eh bien, après le 27 octobre 2022, date du rachat, il s'est lancé massivement dans le licenciement du personnel.
Ouais.
Voilà, c'est très bien. Tu vas essayer de deviner en pourcentage du total du personnel, quel pourcentage il a licencié. Vas-y.
Ouais, je vais dire 50%.
Voilà. Eh bien, il a licencié 75% du personnel, Elon Musk. Il a fait fort. L'entreprise est passée de 8000 à 1500 salariés, comme ça, en claquant des doigts. Hier, pourquoi? Est-ce qu'il était en colère? Non, pas du tout. C'est juste qu'il a besoin de faire des économies. Puisque dans le prix de rachat de Twitter, il a dû emprunter 13 milliards de dollars et il doit rembourser ces 13 milliards et payer des intérêts sur ces 13 milliards de 1 milliard de dollars chaque année.
Wow.
Pour une entreprise Twitter qui dégage très peu de bénéfices, qui n'est pas du tout rentable. Donc voilà, il fait à l'arrache, il fait des économies. De façon précipitée, de façon peu réfléchie, encore une fois, il a même essayé de réembaucher immédiatement certains salariés licenciés s'est aperçu qu'ils étaient indispensables. Voilà, ce genre de choses. Hein. Résultat, il n'y a presque plus personne dans les équipes de modération, plus personne dans les équipes de lutte contre la pédopornographie et plus personne, presque, hein, dans les équipes de sûreté de la plateforme. Voilà.
Wow.
Pour les mêmes raisons financières et de façon tout aussi précipitée, il a annulé un système qui était un système de vérification de l'origine des comptes dits notables, les gros comptes. Il y avait un système pour vérifier que c'était bien eux, que ce n'était pas des gens qui usurpaient leur identité. Et il a remplacé ça par un abonnement payant. Comme ça, il s'est dit, je vais faire entrer de l'argent. Twitter Blue. Twitter Blue est un véritable désastre. Twitter est incapable de déceler dans les Twitter Blue les comptes réels et les comptes faux. Donc, tout le monde se fout de Twitter Blue sur Internet.
Ouais.
Troisième chose, il a coupé l'accès à des services externes, c'est-à-dire des services fournis par des entreprises extérieures, fournis aux gros comptes Twitter. C'était des services d'analyse assez sophistiqués. Pourquoi? Il va dire parce que c'est moi qui vais les faire, ces analyses, et je vais les faire payer.
D'accord.
Donc, il a remplacé des services dont beaucoup étaient gratuits ou peu chers par un abonnement annuel de, attention, 42 000 dollars par an.
Waouh.
Succès garanti en sens inverse. Je veux dire, là ça n'a pas du tout accroché. Bon, à côté de ça, comme il l'avait promis, il a permis le retour de comptes interdits, massivement des comptes d'extrême droite, des comptes complotistes, des comptes néo-nazis. Ils sont revenus en masse, hein, d'accord. Et lui-même, Elon Musk, retweet régulièrement un certain nombre de tweets complotistes. En parallèle, il a fait sauter la protection des personnes transgenres. Et puis aussi, il a banni des fournées de journalistes trop critiques de son action. Il les a bannis de Twitter.
D'accord.
Voilà, donc tout ça très rapidement. Alors, conséquence de tout ça, eh bien, un certain nombre de grands médias américains et de grands médias internationaux ont quitté Twitter. La radio publique suédoise, plein de comptes américains, de grands comptes américains, hein, de médias officiels, etc. Un nombre important de comptes à audience large également ont quitté la plateforme ou réduit de plus en plus leur activité sur Twitter. Pour information, dans une note interne très récente, l'AFP, l'agence France Presse, qui fournit beaucoup de médias français et internationaux, vient d'informer ses clients, donc la presse, qu'elle avait enlevé Twitter de la liste de ses sources recensées comme fiables. Parce qu'avec c'est plus très fiable, Twitter. De grands annonceurs ont quitté Twitter. Résultat, son chiffre d'affaires publicitaire, c'est-à-dire ce qui représente la quasi-totalité de son chiffre d'affaires, c'est la pub, a chuté de 40%.
Ouais. Wow.
Son cours boursier a été divisé par 2. Sa capitalisation boursière vaut environ 20 milliards de dollars pour un prix de rachat de 44 milliards. Et si tu enlèves 13 milliards de dettes, eh bien, ça vaut plus grand-chose. Les fameux services, donc j'ai dit 49 000, c'était 42 000 dollars par an, les services facturés hein, qui remplacent ce qui était fourni 10 fois moins cher par d'autres entreprises. Bon, bah, ça a fait fuir en masse les entreprises clientes qui payaient hein, largement Twitter pour être présent, etc. Genre Microsoft, par exemple, pas des petits comptes, hein, d'accord ? Ce qui explique la chute du chiffre d'affaires. Bref, l'impression d'impréparation et, disons-le carrément, d'amateurisme qu'on avait noté il y a un an, qu'on avait suspecté il y a un an dans notre chronique, eh bien, elle est largement confirmée par les faits.
C'est clair.
Mais Olivier Simard Casanova, l'économiste sceptique, va plus loin dans sa deuxième chronique. Il va me donner l'occasion de faire mon prof Patrick. En effet, il part d'une question très simple. Qu'est-ce qui fait le succès d'un réseau social ? Et en apportant la réponse à cette question, il montre qu'Elon Musk est en train de ruiner ce qui fait le succès de Twitter. Alors, je vais m'expliquer. Ce qui fait le succès d'un réseau social, c'est l'existence d'externalités de réseau. Et ça, c'est de la bonne vieille notion de management, comme on les aime quand on donne des cours dans ce domaine, ce qui est mon cas.
Alors, moi, je n'ai pas compris externalités.
Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut que j'explique. Qu'est-ce que c'est que des externalités de réseau ? Pour que ce soit plus clair, je vais donner un exemple avec l'entreprise Uber.
Ouais.
Uber, son site internet sert à quoi ? Il sert à mettre en rapport, d'un côté, des chauffeurs qui ont envie de déplacer, de transporter des clients pour gagner de l'argent. Et de l'autre côté, des clients qui ont envie de se faire transporter.
Qui sont prêts à payer.
Une externalité de réseau, c'est le fait que plus il y a de chauffeurs, plus il y aura de clients intéressés parce qu'ils savent qu'ils pourront être transportés très facilement.
Ouais.
Et inversement, plus il y a de clients intéressés, plus il y aura de gens qui voudront devenir chauffeurs pour Uber parce qu'ils savent qu'ils vont gagner leur vie. Une externalité de réseau, c'est un renforcement positif quand ça augmente ou négatif quand ça baisse.
Ouais.
Alors, pour Twitter, c'est plus simple, l'externalité de réseau. En fait, c'est plus le nombre de tweetos augmente, utilisateurs de Twitter, plus en fait, il y aura des entreprises qui viendront y faire de la pub. Donc là, ça paraît un truc plus classique, mais c'est quand même de l'externalité de réseau. Eh bien, qu'est-ce qui crée la valeur de Twitter pour ses utilisateurs ? Qu'est-ce qui motive les utilisateurs à aller sur Twitter, ouvrir un compte ? Eh bien, c'est qu'ils y trouvent d'autres utilisateurs qui produisent de l'information, qui produisent des analyses, qui produisent du divertissement, etc., etc. Et tous ces utilisateurs se connectent entre eux. Qu'est-ce qu'il a fait, Musk, avec tout ce que je viens de décrire ?
Il a fait fuir.
Et c'est ça. Il met fin à la vérification des comptes notables. Les comptes notables, c'est les gros comptes, ceux qui publient beaucoup de tweets, qui sont énormément suivis.
Et qui produisent des choses fiables.
Exactement. Donc, les utilisateurs sont moins sûrs de la fiabilité de ces comptes notables, parce que ça peut très bien être des identités usurpées. Donc, le taux de suivi de ces grands comptes va et est en train de baisser petit à petit. Oui, si on met sur le même plan les comptes sérieux et les comptes pas sérieux, la confiance s'en va et l'utilisation, les suiveurs vont diminuer. Mais comme on touche une des principales raisons de s'abonner à Twitter, c'est-à-dire la nécessité de s'informer, bon, bah, ça fait très mal. Il a mis fin aussi aux services extérieurs d'analyse hein, qu'utilisaient massivement les gros comptes. En fin d'analyse, leur disait, voilà, vous avez tant de suivis, vous avez tel pourcentage de ceci, de cela. Et ça leur permettait de vérifier un peu la rentabilité de leur compte, en quelque sorte. Ça, c'était utilisé massivement par les journalistes, par les professionnels, par tous les médias qui produisaient de la grande quantité de tweets et qui étaient massivement suivis. Il a remplacé ça par une version très médiocre, très appauvrie de l'analyse, mais surtout hyper coûteuse. Donc, l'activité de ces gros comptes va diminuer et ils vont se barrer, certains d'entre eux. Voilà. Conclusion, Elon Musk a méthodiquement scié la branche sur laquelle est posée l'entreprise Twitter. La baisse de la fréquentation globale de Twitter est en cours. Sa grande chance actuellement à Elon Musk, c'est qu'aucun des concurrents en face n'est en train de s'imposer. Il y a de la compétition.
Il n'y a pas d'équivalent.
Voilà. Attention, ça émerge. Hein. Il y a le plus connu s'appelle Mastodon. Mmh. Voilà. Mais il fonctionne un peu différemment. Donc, bon, après, c'est peut-être une question de temps. Peut-être que le temps de la migration, il y a un concurrent, un challenger qui va monter en puissance et qui va vraiment le menacer. Pour terminer cette chronique, je voudrais revenir à notre chronique d'il y a un an et aux annonces que Musk avait faites il y a un an. Il y avait deux points qui prédominaient il y a un an quand il avait annoncé sa volonté de racheter Twitter. Un, sa volonté d'alléger la modération. C'était étonnant, on en avait largement parlé, mais on avait surtout dit que ça constituait une des revendications prioritaires de ce que j'avais appelé l'alt-right américaine, c'est-à-dire l'extrême droite américaine, qui peut être extrêmement dure. Hein. Une extrême droite hyper dure, qui va jusqu'aux néo-nazis, complotistes, etc. Ça, c'est fait. C'est fait. Il n'y a quasiment plus de modération. Hein. Il a viré tout le monde.
Quelle horreur.
Deuxième chose, il avait parlé de rendre publics les algorithmes dans un état d'esprit libertaire, rendre à tout le monde l'information sur les algorithmes, c'est-à-dire comment sont construits ces algorithmes qui décident de ce qu'on vous transmet ou pas en termes de vos comptes Twitter.
Qu'est-ce qu'on voit et pourquoi ?
Voilà, ça c'était une volonté très libertaire, très intéressante, il n'en a rien fait.
Ouais.
Et puis alors, il n'y a rien à l'horizon à ce niveau-là, hein, d'accord ? Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, ça constituerait pour lui une perte de pouvoir, la perte de contrôle des algorithmes, et une perte de pouvoir qu'il ne peut pas accepter.
Et puis c'est comme si une marque donnait sa recette, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, mais si on est dans l'idéologie libertaire des débuts d'Internet, ça se comprend, l'open source, etc., etc. Sauf que l'idéologie libertaire, ça a des limites que les libertariens... Musk est un libertarien, ont bien compris. La liberté, c'est important, mais pas au point de mettre tout le monde au même niveau. Faut pas déconner non plus. Mmh. Voilà, c'est toujours la liberté du renard dans le poulailler, comme je l'avais dit. La liberté selon les libertariens. Morale de l'histoire, les masques tombent. Comme on l'avait déjà soupçonné, je faisais du mauvais esprit il y a un an. Le rachat de Twitter est d'abord idéologique. Et il est assez emblématique de cette alliance des libertariens et de l'extrême droite qu'on a largement évoquée dans 4 chroniques en novembre et décembre dernier sur l'idéologie libertarienne. Mmh. Et ce rachat, il est aussi le constat que dans notre société capitaliste dépend essentiel de la liberté d'expression, de l'exercice de la liberté d'expression peuvent tomber entre les mains d'un seul homme.
Ouais.
Bref, le capitalisme du XXIe siècle est-il encore compatible avec la démocratie ? C'est mon ouverture finale. Je laisse les auditeurs y réfléchir.
Ouais. Merci beaucoup, prof Patrick.
À plus.
On note aussi, on avait dit, les milliardaires créent de l'emploi, de la richesse, etc.
Ouais, ouais,
le
ouais, ruissellement. Ils en détruisent aussi, ça fait.
La première chose qu'il a fait, c'est supprimer 75% des emplois de l'entreprise qu'il y a.
Il est pendu financièrement. Il est pendu, mais il s'y prend de la pire des manières, parce que Twitter n'est déjà pas une entreprise très rentable. Et en faisant ça, ben, il a fait effondrer le chiffre d'affaires. La rentabilité va s'effondrer. Il va être très embêté pour rembourser ses dettes, le Musk. Les 13 milliards.
Bon, au moins il nous fait rire, c'est déjà ça.
Voilà.
Merci beaucoup, prof Patrick, à bientôt.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.